RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine.
RTL.
Le sucre et le sel se ressent.
Jusqu'à 22h.
J'aime les deux pour toujours à la fois.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Grâce à Garou. Je ne connaissais pas cette chanson.
Et Nougaro.
Et Nougaro. On réunit en quelques secondes le sel, le sucre et la farine. C'est l'histoire des trois ors blancs que l'on vous raconte donc maintenant avec notre invité Philippe Angineau. Bonsoir.
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 Bienvenue dans la curiosité. Vous êtes écrivain passionné de gastronomie et du patrimoine culinaire français. Vous allez nous dire d'où viennent ces produits, comment ils sont devenus la base finalement d'une économie dans laquelle la France tient une place d'ailleurs importante au niveau européen et mondial. Mais d'abord, une histoire qui remonte à la Révolution. À cette époque, le sucre redevient une denrée rare. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il n'arrive plus des Antilles. Il est empêché. Les îles sont sous contrôle étranger et le sucre devient très, très, très rare. Et dans les quelques cafés parisiens de cette époque-là, il n'y en a pas énormément. Hein. On est à quelques centaines seulement, fréquentés par une chic clientèle. On n'a plus de sucre.
Alors, comment on le consomme dans ces cafés, le sucre ?
Eh bien, les quelques rares morceaux qu'il reste sont accrochés au plafond et on est simplement autorisé à lever sa tasse de café quelques secondes seulement pour que le sucre se diffuse un petit instant dans le café et c'est tout ce à quoi on a droit.
Ah, ça rend le café encore plus précieux, évidemment.
Alors, c'était déjà extraordinaire de boire du café sucré en plus, souvent allongé avec une petite goutte ou avec un peu de rhum, hein, ce qu'on appelait le Gloria à l'époque, ou le régal quand il était double, il y avait déjà ces traditions, mais c'était quand même exceptionnel. Et le sucre que l'on connaît bien aujourd'hui, que l'on a à profusion, a longtemps été quelque chose d'inconnu, ensuite d'extrêmement rare, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Justement, Philippe Angineau, avant le sucre, il y avait quoi ? Le miel ? Les fruits ?
Les fruits, principalement. C'était la saveur sucrée, c'était les fruits. Donc les fruits séchés, les figues, les dattes, les abricots, des choses comme ça. Le miel, bien sûr. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'on connaissait du sucre. Et au Moyen-Âge, les premières croisades ont permis aux chevaliers de rapporter cette épice, on appelait ça une épice à l'époque, un peu exceptionnelle et avec ce goût sublime. Et c'est comme ça que le sucre est petit à petit entré dans la cuisine française, mais d'une façon tout à fait exceptionnelle. Connaître le sucre, ça voulait dire connaître le monde, connaître l'Orient. Et ça, c'était pas pour tout le monde.
Mais ça veut dire que le sucre... quand il arrive en France, il est d'abord quoi ? Réservé aux cours royales ?
Absolument, absolument. C'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il est consommé sous forme de grains, pour dire à quel point c'est un produit très rare. Sous forme de grains, on pense d'abord que c'est un produit pour la médecine. Et puis après, on se rend compte que c'est un produit qui va être utile à la conservation des aliments. Et c'est comme ça, par exemple, que Nostradamus, en 1500 et quelques, avant même d'écrire ses prophéties, écrit un petit ouvrage de cuisine qui s'appelle « De l'art de faire des confitures
». C'est très drôle. Vous racontez dans votre livre « Les trois ors blancs » qui est publié au Papillon Rouge éditeur que Louis XIV portait toujours son sucrier sur lui et qu'il en faisait presque un instrument de pouvoir. Comment cela ?
Alors, c'est pas exactement ça. À la table de Louis XIV, oui, il y avait un magnifique sucrier, comme vous pouvez imaginer.
Ah oui, mais il avait la clé, c'est
qui
ça.
Il était fermé. D'accord, à clé, c'est le roi seul qui possédait cette clé, qu'il accrochait en pendentif.
Bien sûr.
Et lorsqu'il voulait faire une faveur à une de ses courtisanes, il lui proposait à ce moment-là d'ouvrir le sucrier et lui proposait un petit sucre.
Un petit sucre du roi, dites donc. Philippe Angineau, qui va commercialiser le sucre ?
Alors, le commerce du sucre, c'est le commerce des épices, en fait. Quand on parle du commerce des épices qui a ouvert la route de l'Orient, etc., on se dit quoi ? Le cumin, la cardamone et tout ça ? Est-ce que vraiment au Moyen-Âge, on était addict au curry ou des choses comme ça ? Non. Quand on parle d'épices, on parle On parle de sucre. Et donc, le commerce du sucre, ce sont les Vénitiens qui très rapidement ont mis la main dessus parce que c'était le commerce en Méditerranée. Et c'est eux qui ramenaient de la matière brute, en quelque sorte, et qui le diffusaient ensuite dans toute l'Europe.
Et la canne à sucre, elle va être cultivée quand aux Antilles ?
La canne à sucre, elle n'est pas originaire des Antilles. Elle est originaire de Papouasie. Hein. Donc, il a fallu un long trajet avant qu'elle atteigne les Antilles. C'est au 17e qu'on importe de la canne à sucre. On s'aperçoit que les terres antillaises sont particulièrement propices à sa culture et vont devenir pratiquement d'ailleurs la monoculture de toutes ces îles.
Au détriment des Antilles ?
Alors, au détriment, les Antilles n'étaient pas très peuplées. La canne à sucre demande énormément de travail. Hein, ça ne pousse pas tout seul. Il y a un travail de la terre qui est important, et le travail de la récolte, l'extraction, etc. Donc, il faut énormément de main-d'œuvre.
Donc, c'est bon pour l'économie locale ?
Alors, pour l'économie locale, c'est surtout bon pour l'économie occidentale.
Mais oui.
À condition d'avoir de la main-d'œuvre. Et pour ça, il faut passer par l'Afrique.
Disons les choses clairement, par l'esclavage.
Par l'esclavage, bien sûr. On passe d'abord en Afrique. Et le sucre, c'est la base du commerce triangulaire, en fait. Hein, ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire des armateurs occidentaux qui passent en Afrique, échangent des pacotilles avec les Africains et puis les emmènent aux Antilles pour ce travail.
En France, à partir de quand le sucre devient un produit de consommation courante ? Quitte les cours royales pour être consommé par tout un chacun.
Eh bien, pour revenir à Louis XIV, au début de son règne, il a la clé autour du cou. À la fin de son règne, il y a plusieurs sucriers sur la table.
Et il n'y a plus de clé, c'est plus fermé.
Il n'y a plus de clé et c'est ouvert. Et on consomme du sucre donc, dans les premiers estaminets parisiens. Et là, ça commence à se répandre donc dans les hautes couches de la société. Et puis, petit à petit, ça se répand au début du 19e, en 1800, ou à l'époque de la Révolution, on a 2000 cafés à Paris, 4000 en 1810, et là on se précipite vers cette denrée exceptionnelle, et là ça se répand dans pratiquement toutes les couches de la population.
Je te donne un cadenas sur le sucrier de ma maison, je trouve ça assez chic.
Oui, ça peut être pas
mal. Pour le rendre encore plus précieux, ce sucre.
C'est royal chez Sidonie Bonnec, c'est vraiment royal.
On essaye.
On a encore plein de questions, vous êtes passionnant et on a envie de vous demander, tiens, parce que moi je ne le sais pas, comment le sucre est-il produit ? Qui a inventé le sucre en morceaux ?
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes très heureux de passer cette soirée de lundi de Pâques avec vous.
Oui, c'est une bonne idée d'être venu.
Bah oui, c'est gentil.
On est content de s'en sortir un peu de seul. Donc, heureusement, ils sont tous là. Allez, comme promis, dans la troisième partie de l'émission, on va parler de ces gourmands célèbres. On découvrira, par exemple, qui a inventé le métier de critique gastronomique ou encore celui qui a mis à l'honneur la viande de cheval et puis celui qui a eu la drôle d'idée de mettre au menu les mamelles de truie. Ça existe.
Vous pouvez le dire. Drôle d'idée.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le sel, la farine et le sucre, bah, il ne manque plus que les œufs pour faire de bonnes crêpes. On les surnomme les trois...
Ah, ça donne faim, ça. Ah ouais, j'ai pas pris de dessert tout à l'heure. Ah non, c'est pas sympa. C'est pas une bonne idée, là.
C'est terrible.
Vous allez entendre mon ventre gargouiller.
Il y a surtout plein d'auditeurs qui vont ouvrir les placards et commencer à cuisiner.
Faites ça en écoutant l'histoire du sucre, on continue.
Oui, sel, farine, sucre, ce sont les trois ors blancs. Et on vous raconte leur histoire grâce à notre invité, Philippe Angineau, qui publie un livre sur cette fabuleuse aventure. C'est au Papillon Rouge éditeur. Alors, on a parlé tout à l'heure de la canne à sucre, mais un autre produit de base a révolutionné cette industrie sucrière, c'est la betterave. Qui c'est qui la développe en France ?
La betterave, en fait, c'est le fruit d'un accident, en quelque sorte, et surtout du conflit entre la France et l'Angleterre. À un moment donné, les Anglais, contre Napoléon, décident un blocus maritime. On n'a plus accès aux Antilles et aux cargaisons de sucre. Napoléon, en représailles, fait lui aussi un blocus continental. Et cette fois, il n'y a plus rien du tout qui peut atterrir en France. Donc, il cherche par tous les moyens à trouver des succès d'année, en quelque sorte, à tous ces produits. Et puis, Olivier de Serres, déjà au XVe siècle, avait remarqué que certaines betteraves avaient un fort coefficient sucre. Et il propose à ce moment-là, à différents scientifiques, Lavoisier, Parmentier, Chaptal, etc., de s'occuper de la betterave. Et c'est Benjamin Delessert qui, le premier, réussit à fabriquer un pain de sucre entièrement issu de betterave. Aussitôt, l'empereur en est informé. L'empereur n'y croit pas, lui qui a quand même des attaches avec les Antilles de par son épouse, ne croit pas qu'on puisse réellement faire avec de la betterave un pain de sucre, se précipite à l'usine de Delessert, voit le premier pain de sucre, décroche sa Légion d'honneur et la remet aussitôt à Benjamin Delessert. Et c'est
géniale.
Comme ça que le sucre a pu être produit en France et en Europe.
Mais le sucre, comme la farine et le sel dont on parlera tout à l'heure, c'est une affaire d'État à chaque fois. C'est-à-dire qu'au plus haut sommet de l'État, on s'en préoccupe. Vous racontez dans votre livre que Colbert, en 1695, est très fier d'annoncer quoi ? L'autonomie sucrière, c'est ça, en quelque sorte ?
C'était l'objectif, ne pas dépendre de l'étranger. Et Colbert, à un moment donné, se rend compte qu'enfin, la France, ses colonies surtout, produit plus de sucre qu'il n'en achète à l'étranger. Et c'est encore aujourd'hui, avec l'équilibre entre le sucre de canne provenant des Antilles, mais aussi de la Réunion, et le sucre de betterave, je peux dire que Bruxelles s'en occupe très très précisément, de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre les deux productions et que l'une n'affaiblisse pas l'autre. Et ça reste un enjeu national et international et important pour la France, puisqu'on est quand même les premiers producteurs en Europe et parmi les premiers producteurs mondiaux également.
Philippe Anginot, comment se fabrique le sucre ? Par exemple, pour la betterave, est-ce que ce sont celles qu'on mange en salade, les betteraves qui sont transformées, qui servent à la production de sucre ?
Alors, il y a toutes sortes de variétés de betteraves. Il y a bien sûr celle que l'on connaît en salade, qui est rouge foncé, qui est très sucrée aussi. Il y a celle que l'on cultive pour la nourriture animale, hein, puisque il y a beaucoup de glucides à l'intérieur. Et puis, il y a une betterave particulière, qui est la betterave sucrière, qui est celle que l'on cultive pour l'industrie sucrière.
Et en salade, elle n'est pas bonne ? Elle est trop sucrée ?
Rien à voir avec la betterave.
Ah oui, c'est vrai ?
Que l'on connaît. Ah non, c'est très très différent. C'est pas consommable en quelque sorte.
D'accord. Comment elle était produite ? Comment on transforme la betterave en sucre ?
C'est un procédé qui est très compliqué. Et les betteraves sont découpées en tranches très très fines. Et c'est ces tranches-là qui sont pressées pour en sortir leur capacité à sucrer. Ensuite, mélanger avec de l'eau, évaporer, etc. Enfin, si vous avez déjà vu une usine sucrière, comme par exemple l'usine Béguincé, qui est pratiquement au centre de Nantes, hein, où la plus grande usine européenne qui est située près de Lille, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est presque aussi important qu'une raffinerie de pétrole. C'est vraiment...
C'est aussi grand que ça.
C'est énorme. C'est énorme et c'est très, très impressionnant parce que c'est tout un tas de procédés industriels qui sont mis en œuvre, même s'il n'y a aucun procédé chimique qui intervient. Le sucre que l'on retire de la betterave, c'est du pur sucre. Alors là, il faut faire une petite précision quand même, parce que quand on dit sucre, on pense au sucre cristallisé, au sucre blanc.
Celui qu'on met dans notre café.
Or, le mot sucre, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que derrière sucre, vous avez saccharose, glucose, fructose, etc. Et vous en avez comme ça tout un paquet. Et quand on parle de sucre, finalement, est-ce que c'est vraiment du saccharose ou est-ce que c'est saccharose mélangé avec autre chose ? Vous savez, quand vous faites des confitures, par exemple, vous avez des sucres spéciaux pour confiture d'abricot, pour confiture de fraises, etc. Et à chaque fois, justement, c'est la composition de ce sucre qui est différente.
Est-ce qu'il y a eu des milliardaires ? Vous avez parlé de Béguin. C'est une famille ? Il y a eu des milliardaires du sucre en France ?
Alors, le sucre a engendré des richesses absolument incroyables au XIXe siècle. Donc, on a parlé de Delessert. La famille Béguin, bien sûr, en est une. Mais la plus intéressante, c'est la famille Lebaudy. Le père, Jules Lebaudy, a monté un empire dans le sucre en rachetant des terres dans le Nord et en prenant des parts dans les sociétés antillaises. Et il a monté un empire. Ses enfants eux ont profité de la manne paternelle en quelque sorte et avaient assez peu d'intérêt pour les affaires.
Et donc ils ont dilapidé son argent, c'est un peu ça?
Absolument. Les fils Lebaudy ont tous eu un destin absolument incroyable. L'aîné Max, lui, c'était le flambeur des champs de course. Et il aimait montrer sa richesse et par exemple faire laver sa Rolls au champagne. C'était sa spécialité.
D'accord. Effectivement, il y avait de l'argent dans cette famille.
Donc on voit le phénomène. Il avait un petit frère qui essayait de faire mieux que son aîné et qui lui voulait carrément être empereur. Et donc il a pris possession d'une petite ville en Mauritanie et s'est déclaré empereur du Sahara.
Dernière question sur le sucre et ensuite on va passer à la farine et au sel. Je l'ai posé tout à l'heure, donc il faut y répondre. Qui a inventé le sucre en morceaux qu'on connaît tous maintenant?
Alors le sucre en morceaux, en fait, c'est une spécialité française. Si vous allez dans d'autres pays européens ou aux États-Unis ou ailleurs, vous ne trouverez pas nos petits morceaux de sucre bien blancs.
Mais comment font-ils?
Alors le sucre en majorité est consommé sous forme de poudre. Les bûchettes, les fameuses bûchettes qui tendent à se répandre maintenant partout.
On le trouve dans les cafés souvent et les,
voilà.
Les
petits... Ouais. Exactement.
En emballage papier. Et alors le sucre en morceaux?
Alors le sucre en morceaux, c'est une invention française d'un monsieur qui s'appelle Chambon qui en 1949 a réussi à amalgamer du sucre en poudre pour faire des morceaux de différentes tailles. C'est pour ça que sur vos paquets, vos boîtes de sucre, vous avez numéro 4, numéro 3, numéro 5, etc. en fonction de la taille du morceau de sucre. Et c'est un ingénieur dont la spécialité était la machine à fabriquer les cure-dents.
Ça mène à tout.
Et qui s'est recyclé dans le sucre morceau.
Vous écoutez RTL.
Comme les rois mages.
Ah non, pas eux, on vous l'a dit.
C'est pas le moment.
J'allais poser mon grain de sel dans leur sel ou leur salade. Poser mon grain de sel dans leur purée froide.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Allez, allez.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le sel, le sucre et la farine qui inspiraient Catherine Deneuve dans Peau d'âne avec ses robes couleur de ciel, couleur de soleil, couleur de... Vous vous en souvenez de Peau d'âne?
Mais bien sûr.
Vous étiez pas né quand Peau
d'âne
est sorti?
Non, mais bon, on peut connaître des choses après ça.
Ah,
avance,
c'est ça, vous avez fait une session
de rattrapage. Ça s'appelle un peu de culture générale.
Une session de rattrapage, c'est ça. Avec Jean Marais, évidemment. En tout cas, on vous raconte tout de suite l'histoire de la farine grâce à l'écrivain.
Ça aussi, je connais la farine. Hein.
Philippe Angineau, on va pas dire que vous êtes... Vous avez un petit problème avec le gluten, hein, on va pas raconter ça.
Non, bah, comme je suis comme pas mal de Français, je digère pas toujours bien le gluten.
Bon, alors du coup, on va pas parler de gluten, parce qu'on va parler de la farine, mais d'une façon
dans la farine, il y a du gluten.
Plus aventureuse, hein, mais... grâce à Philippe Angineau. Votre livre « Les trois ors blancs » est publié chez Le Papillon Rouge, éditeur, je le rappelle. La France est aujourd'hui le premier exportateur européen de blé. Ça veut dire que la farine française, elle est demandée un peu partout dans le monde, c'est ça?
Les Français sont experts en farine. Et ce, depuis très longtemps. Même à Rome, sous Jules César, les boulangers, si on peut appeler ça comme ça déjà à cette époque-là, étaient des Gaulois. Ça fait très longtemps qu'en France, alors France, terre d'exception bien sûr pour tout ce qui est agriculture, et en particulier les céréales, et puis peut-être le goût français aussi, le plaisir gastronomique, ont fait que les Français ont toujours été les spécialistes et ont développé un savoir-faire extraordinaire autour du blé et de la farine.
Et alors en lisant votre livre et les chapitres consacrés à la farine, j'ai découvert que les initiales LSD, qui désignent quand même une drogue hallucinatoire particulièrement puissante, ont à voir avec la farine.
Oui, parce que les premières molécules de LSD, en fait, ont été trouvées dans une maladie du seigle, qui s'appelle l'ergot de seigle. C'est un petit champignon qui se développe sur le seigle et qui provoque des effets absolument incroyables. Et Hoffmann, qui a donc fait des recherches là-dessus.
Un chimiste allemand, c'est ça ?
Un chimiste allemand, tout à fait. Travaillé pour un laboratoire suisse. A réussi à extraire cette molécule et à l'essayer d'ailleurs plusieurs fois. Trouvant que ça ne faisait rien. jusqu'au moment où il rentrait de chez lui, depuis son laboratoire avec son vélo, et que là, il a commencé à se rendre compte que la campagne n'avait pas tout à fait l'air aussi suisse qu'habituellement.
D'accord.
Et là, il s'est rendu compte des effets absolument incroyables de cette molécule en particulier, qui vient de l'ergot de seigle, et qu'on connaît depuis longtemps, puisque ce champignon provoquait ce qu'on appelle le mal des ardents, et que l'on connaît depuis le Moyen-Âge.
J'ai mangé beaucoup de pain de seigle quand j'étais jeune, je comprends mieux, je me comprends mieux aujourd'hui.
Et bien voilà, il peut en rester des traces.
Quand on dit farine, Philippe Angineau, on pense évidemment aux céréales. Est-ce qu'elles permettent toutes de faire de la farine pour le pain, ces céréales?
Alors, certaines céréales ont une capacité de fermentation, en quelque sorte, qui peuvent amener à faire le pain tel qu'on le conçoit en France.
Mais le blé, c'est vraiment le...
Alors quand on dit blé, là aussi, de quoi parle-t-on? Épeautre, enfin, le blé c'est presque un nom générique. Le blé c'est la meilleure des céréales pour faire le pain. Mais je voudrais dire là-dessus qu'on se dit le blé c'est extraordinaire, ça nourrit l'humanité avec le pain. Et puis on se pose la question quand même de savoir comment les premiers hommes en quelque sorte, pourquoi ils ont développé le blé? Pour se nourrir? Avec un épi de blé qui avait 5-6 petits grains seulement. Et ça valait la peine de se sédentariser, de déboiser et de planter des champs de blé. Non, ce qui intéressait dans le blé, c'était sa capacité de fermentation. Et si on a développé la culture des céréales, c'est pour faire fermenter ces grains et faire de la bonne bière. C'est ça la
C'était
base.
D'abord la bière avant
bien
le pain,
sûr,
évidemment.
Et ben voilà, vous allez pouvoir nous écrire un livre sur la bière et également. Comment on transformait les céréales en farine avant les moulins?
Oh là,
c'était compliqué, non?
C'était très physique, surtout. C'était très physique, c'était du pilon. Et puis, ça, très difficile d'obtenir une farine très fine avec ces systèmes-là.
Et des moulins, il y en a eu beaucoup en France. Après, ça s'est développé au rythme de la consommation et de la production de blé.
Eh bien, les Grecs ont appris aux Romains à utiliser une meule. Cette meule, elle était entraînée... par des animaux, et puis les croisés ont découvert que l'on pouvait faire tourner la meule avec le vent, et que c'était bien plus facile et plus accessible que d'être obligé de détourner le cours des rivières pour faire des moulins à eau. Donc là aussi, il y a toute une ingénierie derrière qui passe de la force humaine, animale, hydraulique et...
Et puis ces moulins deviennent des lieux de vie sociale aussi?
Alors le moulin, ça a toujours été le lieu important dans une région, dans un village, parce qu'on est amené toujours à faire de la farine avec du grain qui est produit localement. Le blé se transporte très mal. Les insectes se mettent dedans, les rongeurs en tout genre, etc. Donc il faut faire la farine sur place. Et donc le moulin devient le lieu important où toute une région, tout un village va se retrouver pour fabriquer sa farine. Et puis surtout, ça permet de contrôler et de taxer.
Et qui dit farine dit pain, évidemment, dit boulanger. Le mot boulanger, il vient d'où?
Alors le mot boulanger, eh bien, il faut revenir à son étymologie. Le boulanger, c'est celui qui fait des boules.
Tout simplement.
La boule de pain, puisque pendant très longtemps, le pain, assez peu levé en fait, était une simple boule de pâte que l'on mettait cuire au four.
Philippe Angineau, votre livre s'appelle « Les trois ors blancs après le sucre et la farine ». Il nous reste à découvrir l'histoire du sel. Nous sommes des êtres salés.
Oui.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Damar Brass, ça c'est toute mon enfance, Thomas Hugues, ça ne vous dit rien?
Je peux vous dire que la Bretonne, elle danse hein, à côté de moi là.
Il m'a même demandé, mais ça se prononce comment?
Damar Brass.
Ouais, d'accord. Bernard Braz, Borders of Soul.
Ben voilà, les frontières
du sel.
Ce qui nous offre, merci André Facetta, notre réalisateur adoré, une transition toute trouvée pour la dernière séquence de l'émission. On est parti à l'aventure. L'épopée que l'on vous raconte, elle est culinaire, elle est gastronomique. Comment le sucre, la farine et le sel donc, sont devenus des produits de base de notre alimentation et donc d'une économie dans laquelle les entreprises françaises jouent souvent le premier rôle. Philippe Angineau, je rappelle que vous racontez cette histoire passionnante dans un livre, Les Trois Ors Blancs, publié au Papillon Rouge, livre dans lequel vous écrivez « Nous sommes des êtres salés ». On ne peut pas vivre sans sel.
Indispensable. Indispensable à la vie.
À la vie ou au bon goût de la vie ?
À la vie tout court. À la vie tout court. Le sel, on l'a d'abord trouvé dans nos racines carnivores. C'est en mangeant de la viande et en buvant du sang qu'on a trouvé le sel dont on a besoin. Puis après, on a été chercher ailleurs. Mais c'est quand même pas simple d'aller chercher du sel et de l'extraire de l'eau de mer ou de l'extraire des mines de sel. Mais nous sommes constitués exactement comme l'eau de mer, d'ailleurs. L'être humain, c'est 33% de sel, l'eau de mer aussi.
On va surtout parler du sel de mer. Les marais salants, c'est vieux comme l'humanité, Philippe Angineau ?
Oui, c'est vraiment les anciennes techniques qui ont été bien sûr hyper sophistiquées au fil des siècles. Mais le sel étant tellement indispensable, même à la préhistoire, on a trouvé déjà des moyens d'extraire le sel de la terre.
Et quels étaient ces moyens ?
C'est toujours l'évaporation. Ouais. C'est toujours l'évaporation. Et on trouve les marais salants près des deltas des grands fleuves. Et par exemple, Venise a eu des marais salants et là aussi a appris en quelque sorte à commercer grâce à ces marais salants. Et Gênes, par exemple, qui n'a pas de marais salants, a petit à petit vu l'hégémonie de Venise prendre le dessus.
En France, c'est la Méditerranée, la capitale du sel ?
Alors, en France, on a la chance d'avoir une partie méridionale qui est baignée par le soleil, ce qui permet d'avoir des marais salants qui sont hyper productifs, ceux d'Aigues-Mortes, par exemple. Mais on a aussi toute la partie au sud de la Loire, et puis celle de Guérande, bien sûr, et puis celui même des Charentes sur l'île de Ré, mais surtout la baie de Bourgneuf en Vendée, qui pendant longtemps a été pratiquement la première région productrice de sel au monde, il faut dire.
Philippe Angineau, on a vu pour le sucre et pour la farine que leur commerce était une affaire d'État qui intéressait les rois, qui passionnait Napoléon, qui s'en occupait personnellement. Est-ce encore plus vrai pour le sel ?
Qui possède le sel possède le pouvoir. Parce que le sel est tellement indispensable. On dit que le sel est indispensable à l'alimentation humaine. Mais il l'est encore plus pour l'alimentation animale. Une vache ou un mouton, c'est 50 grammes de sel par jour. Et quand un humain, c'est 2-3 grammes. Donc c'est indispensable pour l'alimentation animale. Mais c'est surtout le seul moyen que l'on a connu pendant très longtemps de conserver les aliments.
C'est le premier conservateur.
C'est le premier conservateur. Ouais. Après, on a utilisé le sucre aussi, mais le sel est quand même meilleur marché.
Premier conservateur, le sel est premier impôt aussi.
Alors bien sûr, on trouve des impôts sur le sel chez les Chinois il y a 3-4 000 ans, chez les Phéniciens, etc. Et en France, les comtes de Provence, donc sur leur fameux sel de Méditerranée, ont tout de suite, d'une part, mis un monopole sur la production.
Ouais.
Et sur ce monopole, bien entendu, des taxes importantes.
La gabelle, c'est l'impôt sur le sel ?
Voilà, la gabelle, alors qui était différente selon les régions. La Bretagne, par exemple, était exempte de gabelle puisque elle avait une certaine autonomie et qu'il ne pouvait pas y avoir de prélèvements fiscaux royaux. En Bretagne, c'est un privilège qui est peut-être encore revendiqué, semble-t-il. mais voilà, donc c'est ce qui a fait une partie de la fortune de la région. Le sel y était moins cher et c'était aussi le paradis des gabelous, bien sûr.
Philippe Angineau, l'histoire des mots liés au sel est également passionnante. Tiens, juste un mot, le mot salaire, il vient du sel ?
Bien sûr. Nous sommes envahis de mots qui viennent du sel. Le salaire, bien entendu, c'est la part de sel que César donnait à ses légionnaires. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, toutes les salaisons, bien sûr, une sauce, le mot sauce vient de sel. Tout ce qui est salade, saucisson, saucisse. Mais le plus beau, peut-être, puisque le sel a toujours été ce que l'on donne à l'étranger lorsqu'on lui fait l'hospitalité. Les plus beaux, peut-être, des mots du sel qui nous restent, c'est le salut que l'on donne quand on accueille quelqu'un et qui se transforme en « hello ». Hal, qui est aussi une forme de sel dans une langue germanique. Donc on a conservé encore aujourd'hui. Et quand vous arrivez quelque part, sur la table, ce qui est gratuit dans un restaurant, c'est le sel.
Vous écoutez RTL.